nous, ce qu'on veut, c'est vraiment retourner à l'université.
J'ai pas réussi à rendre tous les DM.
Je suis vite distraite.
T'as rien oublié. Effaceur, typex, ton goûter, t'as ton goûter.
C'est-à-dire que le plus beau cadeau qui nous a été fait depuis qu'on est petit, c'est...
La cour d'honneur.
J'ai aussi écrit un courrier au président de la République, parce qu'on sait jamais. Hein.
Ça va tout changer, parce qu'en plus, j'habite à Paris.
J'attends, est-ce qu'il y aura un autre confinement, et est-ce que je vais pouvoir travailler.
90% du temps était voilà, dans sa chambre, sur son lit. Ou.
J'ai foulé le sol de la cour d'honneur pour la première fois. J'ai pas été impressionnée.
S'il tressaille, on frissonne.
Bonjour.
Bonsoir.
Bienvenue à Cour d'honneur, saison 5, épisode 11
et la 73e émission.
Pardon, Swan. C'est l'heure de votre émission préférée, alors sortez de votre lit.
On sait très bien que vous n'êtes pas en train de réarmer la France démographiquement comme Macron le voudrait, alors écoutez-nous.
Mais c'est ok parce qu'on est toujours là pour vous divertir.
Avec au micro, encore et toujours, vos boss ladies préférées, Swan.
Et Ellie.
J'espère que vous êtes parés à nous écouter parce qu'on sait que vous nous attendiez tous avec impatience, on n'en doute pas.
Et même si on doit lutter contre le mauvais temps parisien et regarder la performance de Benito, aka Bad Bunny pour la 10e fois, hashtag c'était vraiment incre, on est quand même à fond pour vous divertir. Reste avec nous à écouter du bon son comme toujours.
Et des anecdotes à vous donner envie de faire des folies. Allez, on se pose toujours cette même question.
C'est quoi être étudiant à la Sorbonne ?
On vous répond toujours sur Radio Sorbonne Université.
Votre magazine préféré d'info et de culture qui fait le tour de la Sorbonne et de ses campus.
C'est un mercredi sur deux sur Radio Sorbonne Université.
Et un samedi sur deux sur Radio Campus Paris.
Pendant une heure, on va...
parler de très bons plans.
Jean Horacio Célestin, à la recherche d'un emploi dans le business de Santiago.
D'élite.
Stop, c'est insupportable là.
Bah oui, c'est insupportable, c'est Anne.
Bon, qu'est-ce qui se passe ?
Il se trouve que Anne est chef, voilà. Voilà ce qui se passe. Et elle est nulle.
Et de bons étages ouverts.
Ah non, parce que non, c'est parce que c'est pas comme du travail que je suis venu.
Ouais.
Allez, voici nos promesses.
Avec la meilleure des équipes pour vous servir.
Bonsoir Romain.
Bonsoir, alors moi ce soir je vais parler du débat faut-il faire un master ou bien se poser des questions et tout simplement faire une année de césure.
On a hâte d'en parler.
Oui, c'est déjà pas du tout stressant, on a hâte vraiment. Mais bonsoir à Jade aussi.
Bonsoir à tous, donc moi aujourd'hui j'interview donc Eric Mention Rigo. Et donc on va parler d'élite, d'aristocratie. On retourne un petit peu en arrière mais un retour qui se trouve nécessaire.
Très intéressant tout ça.
Bonsoir aussi à Lavinia.
Bonsoir les filles. Alors je vous ai préparé un reportage sur une épicerie solidaire qui se trouve vraiment à côté du Panthéon, vous allez voir.
Et oui, ça on a hâte parce qu'on a besoin de bons plans.
J'ai besoin de me remplir la panse. Bonsoir aussi au fameux Elias.
Bonsoir. Moi ce soir je vous ai préparé une petite chronique, la chronique pavée, sur la première imprimante à la Sorbonne.
Très sly.
Bonsoir aussi à Mathilde.
Bonsoir, J-3. Avant la Saint-Valentin, on va parler d'amour.
Yes, nickel. Merci Clara. Bonsoir Clara.
Avec plaisir. Bonsoir à tous et à toutes. Alors moi, je vous ai préparé la petite carte postale de la semaine. Et on va s'étendre un peu à côté de la Sorbonne, mais toujours à la Sorbonne, puisque c'est la rue de la Sorbonne.
Évidemment. Bonsoir aussi à notre invité, Eric Mention Rigo. Merci d'être avec nous.
Bonsoir, je suis ravi d'être... avec vous, ça me rajeunit.
On est tout aussi ravis que vous. Et sans oublier le grand Thomas Beckett. Non, pardon, Thomas Jefferson. Et non, j'arrive encore et toujours à court de Thomas. C'est encore le fameux et célèbre Thomas Schnell.
Et je savais que vous étiez impatient de me retrouver ce soir, mais je vais vous apprendre, moi, comment lutter contre l'impatience, le mal du siècle.
Ouh là là.
C'est nécessaire. Allez, que vous soyez en pleine période d'examen,
malade comme moi dans votre lit, pas comme moi,
ou planqué à la BU,
on vous accueille parmi nous pour la prochaine heure.
Bienvenue dans la cour d'honneur de la Sorbonne.
Et pour bien commencer, on se met dans l'ambiance avec la carte blanche, l'édito de Radio Sorbonne.
Bourgeois, eh bien c'est leur seule façon de montrer qu'ils existent.
Là, je suis vraiment ici.
Carte blanche.
Le monde marche à l'envers pendant que nos dirigeants se battent pour savoir qui aura la plus grosse avant de détruire le monde. La France, elle, entre tous ses problèmes majeurs, a décidé que le plus important, c'était les enfants. Le gouvernement veut tellement d'enfants qu'on se croirait presque chez Epstein et ça devient aussi pathétique qu'effrayant.
Donc voilà, passé 29 ans, l'État français te regarde droit dans les yeux et te glisse une petite lettre bien polie pour te dire « Dis donc, c'est bien de faire la tana, mais le bébé, il est où ?» Parce qu'apparemment, à cet âge-là, tu n'es plus tout à fait un citoyen, mais pas encore une variable démographique utile. Une sorte d'utérus sur pattes qui tarde à faire son boulot. On adore l'élégance du procédé, pas de logement accessible, pas de salaire décent, pas de services publics qui tiennent debout, des crèches saturées, des maternités qui ferment, une planète en surchauffe, mais une lettre. Une lettre pour nous rappeler que le problème, c'est nous. Notre égoïsme, notre flemme reproductive, notre incapacité à comprendre que faire des enfants dans la précarité, l'angoisse climatique et le burn-out généralisé, c'est un choix joyeux et responsable. For sure, comme dirait le Top Gun qui nous sert de président. Ce qui est fascinant, c'est que ce ton faussement bienveillant, presque culpabilisant, comme si on avait juste oublié, comme si on se disait tous les matins « Tiens, j'hésite entre faire un enfant et payer mon loyer, tiens. » Et que cette lettre allait tout débloquer. Merci l'État, sans toi, on n'aurait jamais su que la France avait besoin de bébés. On attend toujours en revanche la lettre qui dit « On va s'occuper du monde dans lequel ils vont grandir. » Mais rassurons-nous, on ne nous force à rien. On nous encourage, gentiment, administrativement. Parce que quoi de plus romantique qu'un projet parental né d'un courrier officiel, imprimé en Arial 11, signé cordialement la République. Alors non, le problème n'est pas que les Français ne veulent pas d'enfants. Le problème, c'est qu'on nous demande de procréer pour colmater des décennies de choix politiques sans jamais remettre en question le cadre. Et à ça, désolé, aucune lettre ne suffira.
Merci Élie de nous faire culpabiliser et nous rendre encore plus... Anti-enfant, non, on plaisante. Allez, sur ce, il est 18h06 sur Radio Campus et 20h06 sur Radio Sorbonne.
Swan, les résultats du premier semestre sont tombés.
Ouais, j'ai vu, bon, en vrai, c'est pas la fin du monde, hein, mais certaines matières m'ont fait un peu mal.
Oui, mais du coup, je t'avoue que je commence à remettre toute ma vie en question pour le master, etc.
Non, mais meuf, relax.
Dans la vie, de toute façon, il y a des hauts.
Il y a des bas.
Et maintenant, place au débat.
Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.
Après la licence, est-ce qu'il vaut mieux enchaîner par un master ou faire une pause amplement méritée? Romain est allé poser la question aux étudiants, on écoute leurs réponses et on en parle juste après sur le plateau.
Moi, idéalement, je ferais un master directement, mais après, si j'ai pas le master que je veux, je préférerais faire une pause pour plus me poser et bien faire mes admissions, bien faire les candidatures, bien faire certains concours.
Franchement, je préfère avoir une petite pause parce que je pense que ça peut être bien pour vraiment clarifier notre projet, surtout si on fait un master de recherche, parce que dans la recherche, il faut vraiment se concentrer sur un sujet. En particulier, des fois, à la fin d'une licence, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire.
Alors moi, je vais plutôt partir sur continuer mes études, je pense. Notamment parce que je pense que si jamais je fais une pause, après, je vais avoir du mal à m'y remettre. Mais aussi parce que, je sais pas, je trouve que je suis assez dans l'élan. Enfin, j'ai pas vraiment pensé en vrai. Et je pense que si jamais j'avais envie de faire des pauses pour l'année de césure, peut-être que je le ferai juste après que j'ai fini mes études en général.
Ma situation est un peu particulière parce que j'ai fait une césure entre deux années de master. Mais même quand j'étais en licence, j'ai quand même toujours pris un peu des années pour réfléchir dans le sens où j'ai beaucoup changé de licence. Et moi, je pense juste qu'un enjeu pour la césure, c'est de penser en amont ce qu'on va faire, y compris le degré auquel on va être inséré dans des trucs sociaux, que ce soit un travail, un stage... ou même un autre cursus ou une expérience qui au moins nous y aide pas socialement.
Alors plutôt master, vacances, travail?
Alors moi personnellement j'hésite beaucoup à faire une année de césure ou alors à tenter le master, mais je tiendrais déjà à rétablir une certaine vérité, c'est grave ok de juste faire une licence et de ne pas faire le master. Et je pense que cette année de césure c'est une bonne idée pour bien prendre du recul et potentiellement continuer ou pas. Donc voilà, je pense que l'année de césure est une bonne idée, que ça soit bien qu'elle est encadrée par la Sorbonne.
Moi j'ai une petite question. En fait, justement, je me posais la question parce que je me dis, oui, voilà, est-ce que c'était bien de se poser, de même faire de l'argent peut-être pendant cette année pour tenter des concours qui sont parfois payants. Mais est-ce que cette année de césure est bien vue sur le dossier ou est-ce qu'elle est justement pas du tout valorisée par les écoles qu'on souhaite demander après?
Je pense pas que ça, honnêtement, enfin, je parle sans connaissance de cause, mais je pense pas que ça puisse te pénaliser, puisqu'il y a plein de gens, si tu compares les expériences des personnes qui sont bien avancées, qui ont une trentaine d'années ou même plus, ils ont tous fait des césures, que ce soit pour voyager ou juste pour mettre de l'argent de côté. On sait tous qu'on n'a pas tous ni le même moyen, ni même le même capital culturel ou de voyage, ce qui fait qu'on a tous besoin d'expérience. Donc, non. Ça peut, je pense, même plus valoir ton CV ou.
Oui, si c'est bien justifié, effectivement. Oui, voilà. Moi, j'ai une amie qui visait un master qu'elle n'a pas eu, et elle avait eu quand même un autre master à 16 qui voilà, aurait pu être très intéressant, mais ce qu'elle voulait vraiment, c'était Sciences Po. Et elle a décidé de faire une année où elle allait à l'étranger faire des stages. Et ensuite, elle a eu son master parce qu'elle a justifié ça. Mais je pense que ce qui fait un peu peur, moi personnellement, ce qui m'a fait peur dans l'année de césure, c'est qu'est-ce que je vais faire et le fait de sortir du cursus. Après, je pense que ça dépend des personnalités, mais j'avais peur de plus avoir la force de revenir dans quelque chose d'assez du coup assez académique une fois qu'on touche à la vie sur le terrain. Donc ça dépend aussi des disciplines.
Au contraire, si jamais tu as passé 3 ans à faire une licence, que tu en as plein la tête et que tu hésites à faire un master ou pas, peut-être que ça peut t'aérer l'esprit de faire cette année de césure pour reprendre quelque chose qui t'intéressait avant, mais juste qui t'a demandé beaucoup d'efforts pendant 3 ans.
Mais si vous me permettez d'intervenir, je pense que l'année de césure, en fait, ce qui est important, c'est ce que vous mettez dessous. C'est-à-dire, il ne faut pas que ça soit une année blanche. Il ne faut pas que ça apparaisse comme une année de glandouille. Ce qui est important, je pense que le mieux, quand vous vous posez des questions, c'est une expérience professionnelle. C'est-à-dire, entrer dans le monde de l'entreprise, c'est ce qui peut être le plus bénéfique pour vous. Et comme vous le disiez justement, monsieur, c'est de vous avoir une autre expérience qui vous permet de prendre du recul. Et c'est vraiment ce qui peut vous permettre de prendre du recul. Mais l'année de césure, bien sûr qu'elle peut être perçue sur votre CV comme très positive, à condition qu'elle ne soit pas une année blanche. Parce qu'alors là, ça donne l'impression d'une année perdue. Or, le monde de l'entreprise est dur et n'aime pas les jeunes qui donnent l'impression d'hésiter. Il faut créer de la cohérence dans votre parcours, ce qui n'exclut pas une prise de recul pour justement pouvoir réfléchir.
Mais après, est-ce qu'on préférerait un jeune qui arrive après 3 ans à être épuisé, la tête dans le guidon, dans une entreprise qu'il ne connaît pas, ou alors de prendre son temps justement, de prendre pas forcément une année glandouille, mais une année où on peut avoir des petites expériences par-ci par-là, mais de ne pas être toujours dans l'élan des études? Est-ce qu'une entreprise préfère quelqu'un qui a tout fait mais qui est épuisé ou quelqu'un qui...
Le monde de l'entreprise ne veut pas avoir de gens épuisés, mais le monde de l'entreprise craint toujours les profils qui sont un peu papillons sur les roses. Et il faut au contraire que vous montriez, le monde de l'entreprise est dur, une détermination et une cohérence dans votre profil, ce qui n'exclut pas. Ce qui n'exclut pas, tout le monde le comprend, que vous ayez besoin de recul et de multiplier les expériences. Mais il faut que ça s'inscrive dans une... que vous puissiez après, au moment où vous aurez à vous différencier positivement en montrant la singularité de votre trajectoire biographique et de votre trajectoire estudiantine, de montrer que vous avez fait quelque chose qui est intéressant et qui vous a apporté quelque chose. C'est pour ça que l'année de césure est en fait quelque chose qui se prépare. C'est-à-dire, il faut que vous pensiez à préparer votre année de césure en disant quel va en être le bilan et comment je vais pouvoir prouver à moi-même et aux autres que j'en ai tiré profit.
Et le risque, c'est de se perdre. Et juste pour revenir sur le petit micro-trottoir, c'est que quant au sujet de master, moi je ne savais pas, mais en fait on a quand même un petit temps pour le repenser avec les professeurs qui sont tout à fait au courant qu'on peut arriver avec un sujet qui est pas précisé, qui peut complètement changer. Moi j'ai des amis qui ont vraiment complètement changé leur sujet. Voilà, après toutes les écoles n'ont pas forcément cette souplesse là, mais c'est aussi à garder à l'esprit que c'est souple.
Je suis plutôt d'accord. Et pour revenir sur un peu l'aspect glandouille de l'année de césure où ça serait une année blanche, je trouve ça aussi dommage que beaucoup d'entreprises pensent cela, alors que ça pourrait être au contraire vu comme une année, je dirais un petit peu spirituelle. On réfléchit en fait à notre avenir, on prend du recul, et même si cela peut être interprété aussi comme une année où on ne fait pas grand-chose, on ne fout rien, c'est aussi un moyen de se retrouver, arriver à potentiellement retrouver cette détermination qu'on aurait peut-être perdue, parce que certains, à cause des études, peuvent tomber en dépression ou avoir développé de l'anxiété. Donc je pense que c'est une bonne idée de peut-être faire une année blanche, quitte à ce qu'il n'y ait pas forcément de stage ou quoi, mais ça peut être quand même intéressant de faire cette année blanche, entre guillemets.
Après, l'année de césure, c'est pas forcément une année blanche, ça peut être une année où tu fais autre chose qui t'apporte personnellement, mais pas d'un point de vue professionnel. Et peut-être qu'une entreprise se dirait que justement c'est une bonne idée de faire ça, parce que c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, qui sait quoi faire au bon moment, et peut-être que c'est la meilleure possibilité. Après, c'est au cas par cas toujours, hein. Mais peut-être que c'est le... C'est ça, la meilleure possibilité pour après apporter le plus possible, le mieux possible et dans les meilleures conditions à la fois pour l'entreprise et pour le candidat en question.
D'une manière générale, les stages, dans le cadre d'une année blanche, et moi je pousse beaucoup mes études dans le master en fer, les stages sont extrêmement formateurs. Moi je l'ai vu avec mon fils, il est toujours rentré d'un stage en n'étant plus comme avant. Parce qu'il rencontre des gens très différents, c'est une vraie rupture, mais parce qu'il s'est aussi beaucoup investi dans des stages qui n'étaient pas forcément très longs. Mais un mois de stage, ce n'est pas indifférent. Ça fait rencontrer beaucoup de gens, c'est un autre rythme, et ça vous rince la cervelle, ça vous fait réfléchir, et là, c'est extrêmement formateur.
Mais là, c'est encore dans le cadre professionnel.
Merci à tous pour ce débat, mais franchement, qu'on se le dise, est-ce que les études ne seraient pas un peu surcotées ? Moi, je sais pas, mais je crois que Austin Cohen a un avis sur la question dans sa nouvelle chanson « So Overrated » tout de suite sur Cours d'honneur.
Il est 18h18 sur Radio Campus et 20h18 sur Radio Sorbonne. Vous êtes sur Cours d'honneur, vous venez d'écouter So Overrated de Austin Cohen sur Cours d'honneur, toujours. Et même si, selon lui, pas mal de choses sont surcotées, notre invité d'aujourd'hui, lui, ne l'est sûrement pas. Nous avons le plaisir d'accueillir Éric Mansourigo pour l'interview.
Tout le monde ne peut pas devenir un grand artiste, mais un grand artiste peut surgir n'importe où.
Il n'y a aucune raison logique pour qu'il y ait moins de talents créateurs au XXe siècle qu'au XVIIe.
L'esprit de chevalerie est-il le nouveau moteur du 440 ? Bonsoir à tous, nous recevons ce soir Éric Mansourigo, historien et professeur à la Sorbonne.
Dans son livre « Rester noble dans le monde des affaires », publié en 2024, il analyse comment les descendants de l'aristocratie transforment leur nom en marque et leur sens du devoir en stratégie managériale. Éric Mention-Rigaud, bienvenue au micro de Radio Sorbonne. Pour commencer, une question sur votre propre parcours. Qu'est-ce qui a poussé l'étudiant que vous étiez à s'intéresser à ce milieu qui semble, de prime abord, si secret et tourné vers le passé ?
Alors, ce qui a déterminé ma vocation d'historien, c'est la transmission de la mémoire. J'adore transmettre, j'adore mon métier que j'exerce dans la maison depuis 30 ans comme maître de conférence et comme professeur depuis 17 ans. Et cette question de la mémoire ne cesse de m'intéresser. Or, je travaille sur un milieu pour qui la question de la mémoire est essentielle. Qu'est-ce qu'un noble ? C'est quelqu'un qui s'inscrit dans une temporalité longue, qui assume une conscience généalogique et qui revendique un phénomène de survivance. Évidemment, vous avez compris que je suis historien de la marginalité, je travaille sur 3200 familles, 100 000 personnes, 0,2% de la population française. C'est évidemment un groupe social qui tapisse l'histoire sous l'Ancien Régime et dont l'importance n'a jamais été proportionnelle à son nombre, et qui, dépourvu de tout pouvoir politique depuis la Révolution française, qui clôt la société d'Ancien Régime, et donc qui enlève à la noblesse définitivement la nuit du 4 août le privilège de l'inégalité, elle conserve une sorte de secret de la longévité, puisque dans ces 3000 familles, vous en avez quand même 1500 qui sont suivies depuis le 15e siècle, et pour 9 d'entre elles, depuis 1000 ans. Donc cette transmission, ces familles n'ont plus à donner la preuve de la résilience, qui est un terme qui est très à la mode maintenant, mais qui s'applique particulièrement pour le milieu que j'étudie, puisque ces familles sont apparues sur la scène de l'histoire dans un contexte politique, économique, social qui n'avait rien à voir. Et elles ont donné la preuve de cette capacité d'adaptation. C'est la résilience, c'est un terme qui est utilisé en physique à l'origine pour désigner la capacité d'un métaux à retrouver sa forme initiale après un choc. Et en psychologie, comme c'est beaucoup utilisé de façon peut-être un peu galvaudée, mais moi je trouve très justifié pour le milieu que j'étudie, c'est la capacité à surmonter les adversités, à rebondir et finalement à continuer à durer. Alors d'abord, pour faire un lien avec votre excellent commentaire sur cette lettre de Macron, ces familles pour durer ont une démographie dynamique, puisque ça permet de multiplier les chances. Ça c'est évidemment indispensable, et puis une capacité à la fois à s'adapter et à transmettre, c'est-à-dire que ces familles mêlent à la fois la notion d'héritage, elles s'inscrivent dans une transmission transgénérationnelle, mais en même temps évidemment elles doivent s'adapter. Aujourd'hui leur champ de bataille, c'est le monde de l'entreprise où elles s'efforcent de réussir. Le XXe siècle a été pour beaucoup de familles catastrophique d'un point de vue patrimonial, parce qu'il y a eu la Première Guerre mondiale, la crise de 1929, l'augmentation de la fiscalité. N'oubliez pas que l'impôt sur le revenu est voté en 1914 et appliqué seulement après la Première Guerre mondiale. Il n'y a pas d'impôt sur la fortune, il y a très peu de droits de succession. Donc ces familles ont vécu au cours du XXe siècle souvent un désastre patrimonial, d'autant plus qu'elles ont tardé à entrer dans le monde de l'entreprise et le monde du travail, à la différence de l'aristocratie anglaise ou de l'aristocratie allemande, qui était plus ancrée dans le monde du travail. Donc là, il y a une volonté de rattrapage et qui est marquée aussi par la réussite. Alors là, mon livre est fait à partir du profil de 80 personnes qui ont particulièrement réussi. Alors des jeunes et des moins jeunes, des connus et des moins connus, des gens qui travaillent dans des entreprises plus classiques et d'autres qui travaillent dans des entreprises de nouvelles technologies, mais qui sont en tout cas des exemples de réussite.
Merci pour vos exemples. Justement, pour rebondir du coup sur ces exemples, j'avais une question justement qui me venait à l'esprit. On a la Sorbonne, c'est quand même une faculté de renommée, et je voulais savoir si est-ce que les étudiants venant d'un milieu donc aristocratique, avec quelques signes de noblesse, est-ce qu'ils vivent totalement comme des étudiants de nos jours ? Est-ce que s'ils sont assis sur les mêmes bancs de notre faculté avec nous, est-ce qu'ils vont avoir une même vie à la maison ou...
Oui, votre question m'amuse beaucoup et m'intéresse beaucoup parce qu'en fait, je me la pose moi-même. Bon, depuis que je suis professeur, c'est-à-dire depuis 17 ans, le fait d'être professeur, ça ne change pas énormément de choses sur le bulletin de salaire, mais ça donne, en tout cas dans le département d'histoire, la possibilité d'avoir dans ses enseignements, j'ai la chaire d'histoire culturelle, un enseignement centré sur ses propres recherches. Donc l'un de mes séminaires est consacré à la noblesse dans la société post-révolutionnaire, où on évoque beaucoup aussi les autres périodes, puisque la noblesse n'est pas une création de 1815, c'est une classe de mémoire. Donc on se promène aussi dans l'histoire médiévale, dans l'histoire contemporaine. Et ce séminaire a lieu le mardi de 18h à 20h. Et je suis frappé de voir à la fois, alors peut-être que l'horaire aussi convient bien à des étudiants de master qui ont, pas leur, qui ont leur journée libre pour aller en archives, mais la salle est pleine, j'ai une quarantaine d'étudiants chaque mardi. Et avec un public très différent. Alors, j'ai toujours quelques noms à particules qui sont contents de voir. J'ai pas mal d'étrangers étudiants. Parfois, enfin, j'avais eu des Belges l'année dernière qui m'ont dit qu'il faut venir en France pour avoir un cours sur la noblesse, parce qu'on n'a pas ça en Belgique. Et puis, j'ai des publics très différents. Je le vois dans les noms. Par exemple, la semaine prochaine, je vais faire un cours sur les prénoms. Et les prénoms qui ont les prénoms identitaires, avec les prénoms héréditaires dans les, sur le modèle royal dans les très ancienne famille, et je commence toujours par leur demander à chacun tous leurs prénoms, et je vois des prénoms très différents. Donc, et puis alors, même si à la Sorbonne on a une on a quand même une certaine homogénéité de public, enfin nous ne sommes pas dans des universités plus compliquées, je pense notamment de banlieue, on a quand même une vraie homogénéité, et surtout au niveau de la licence 3 et déjà du master. À Clignancourt, j'ai enseigné 19 ans à Clignancourt en première année avec un infini plaisir, mais le public est quand même un petit peu différent, et on se rend compte qu'il y a une certaine homogénéité. En tout cas, tous les étudiants qui viennent suivre ce cours viennent avec une très grande curiosité. Alors certains, parce qu'en effet, ils peuvent être de la noblesse, mais finalement apprennent des choses plus globales, ils savent peut-être des choses sur leur famille, mais là, en plus de ça, c'est un séminaire dans lequel je leur demande aussi de faire des travaux de recherche, et autant qu'ils peuvent, des travaux de recherche, je leur laisse choisir le sujet, je propose des pistes. Alors certains travaillent sur leur propre famille, ils ont toujours un travail à faire sur un château, un autre travail à faire sur des textes à caractère autobiographique, et ils travaillent sur ils trouvent des sujets sur d'amis, sur des choses qu'ils ont pu rencontrer pendant les vacances. Et il y a une atmosphère extrêmement sympathique dans ce cours. C'est un cours que je fais avec un infini plaisir.
Et par rapport à votre propre parcours, est-ce qu'on peut conclure d'une rupture générationnelle, justement, vous le disiez, donc les gens qui se présentent à votre rendez-vous, ce n'est peut-être pas le même nom qu'il y avait il y a quelques années.
Alors le cours a toujours assez bien marché. Quand j'ai créé le cours, donc il y a 17 ans, quand je suis devenu professeur, il y avait un directeur de l'UFR qui était moyennement bienveillant et qui m'avait dit, de toute façon, la noblesse, c'est post-révolutionnaire, et qu'un titre comme ça, tu n'auras personne. Bon, j'en avais pris acte. En fait, le cours a toujours très bien fonctionné. Et là, ces dernières années, vraiment depuis 5 ans, j'ai une salle pleine. Je ne veux pas prendre une plus grande salle parce que je veux que le cours reste quand même très familial. C'est sous la forme d'un cours magistral, mais les étudiants interviennent quand ils veulent, il n'y a pas de TD. Et je vous dis, quelles sont leurs motivations? Je ne me rends pas compte, mais en tout cas, ils suivent le cours avec beaucoup, une extrême attention, de l'enthousiasme, même de l'enthousiasme. Comme en plus de ça, dans les textes, les travaux un peu libres qui me rendent, bon, ils font des travaux en temps limité qui sont un petit peu de l'ordre du contrôle aussi pour les exercer à travailler en temps limité, mais ils font des travaux de recherche personnelle, et là, il y a parfois un investissement qui me surprend beaucoup et qui aboutit. Je les ai fait travailler aussi sur un blog qui est fait par Laure de Gramont, qui est une amie, qui a un blog qui appartient à une famille ducale très importante, et ça les a beaucoup amusés. Enfin, on fait des choses très diverses. Mes étudiants qui suivent mes cours, en général, sont un peu comme vous. Donc, des étudiants qui ne veulent pas, en général, préparer les concours de recrutement de l'enseignement, qui veulent faire d'autres choses et qui sont ravis d'avoir un cours qui leur éveille l'esprit vers différentes choses.
Monsieur Mention-Rigaud, si vous me le permettez, j'aimerais qu'on aborde un sujet qui nous touche de près à l'université. Donc, on a parlé de multiplier ses chances tout à l'heure, la méritocratie. Pour rappel à nos auditeurs, c'est ce modèle social très fort en France où la position des individus est censée dépendre uniquement de leurs mérites, de leurs talents et de leur travail, et non de leur origine sociale. Pourtant, dans vos recherches, et notamment dans Rester noble dans le monde des affaires, on voit que le nom en particulier notamment, et les réseaux familiaux restent des atouts majeurs. Alors selon vous, la méritocratie est-elle une réalité concrète ou est-ce que l'héritage finit toujours par reprendre le dessus sur le talent individuel ?
Alors, bien évidemment, pour ces familles, le nom ne peut suffire. C'est-à-dire que le monde de l'entreprise, on y réussit parce qu'on est compétent et travailleur. D'ailleurs, mon travail, ce livre, était aussi une réflexion sur le travail. Vous savez, le schéma classique d'opposition entre la noblesse qui est du côté de l'oisiveté et la bourgeoisie qui est du côté du travail, c'est quelque chose qui a été beaucoup étudié, beaucoup développé par tous les spécialistes de la bourgeoisie, qui est la grande gagnante de la Révolution et la classe montante durant tout le 19e siècle, puisque la bourgeoisie accapare un peu tous les secteurs de l'activité au 19e siècle, sauf l'agriculture. Ce schéma classique d'opposition est aujourd'hui rompu, puisque la noblesse, le monde dans le livre, est totalement entrée dans le schéma de la compétitivité, du travail, de la réussite scolaire. Maintenant, bien évidemment, les paramètres, sans faire du Bourdieu un peu raplapla, bien évidemment que l'héritage culturel, le capital social et le capital éducatif qu'on acquiert à la maison donnent une longueur d'avance. Mais ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire que ce capital culturel et éducatif, s'il n'est pas adossé sur un sens du travail et aussi sur de l'intelligence, il ne permet pas la réussite. C'était peut-être le cas sous l'Ancien Régime, où il y avait justement des emplois réservés, mais ce n'est plus le cas maintenant. Maintenant, c'est sûr que il y a quand même une longueur d'avance, mais vous le savez aussi bien que moi. Vous avez, votre génération, vous avez lire Bourdieu et la distinction dès la classe de seconde, donc vous en avez quelques échos. Et dans Bourdieu, il y a beaucoup de choses vraies. Alors, c'est un peu un néo-marxisme appliqué sur le... un papier quadrillé appliqué sur la société, les choses sont plus complexes, mais il y a beaucoup, la distinction est un ouvrage qui a beaucoup compté pour moi. Et ce qui est, si vous voulez, ce que j'essaye de voir, c'est comment ces familles transmettent un héritage qui est un héritage de mémoire, de culture, d'éducation, qui est complémentaire de l'école, qui est une base absolument importante aussi pour leur identité et leur singularité. Mais bien évidemment, et ce dernier livre le montre, il ne leur permet de rester sur les crêtes, ce qui est l'objectif de ces familles pour durer, que si elles s'adaptent à notre époque, avec évidemment la nécessité de gagner de l'argent, ce qui est indispensable pour le maintien de leur rang, et ça suppose le travail et la compétence.
Et bien sur ce vieux Bourdieu, nous arrivons au terme de cet entretien. Et vous le savez, à Radio Sorbonne, nous aimons aussi les traditions. Il y a un rituel immuable auquel aucun de nos invités n'échappe. Pour vous, monsieur Mention-Rigaud, que représente la Sorbonne pour vous ?
C'est merveilleux pour moi. Genre, j'ai pas été étudiant parce que j'ai été en Cagne jusqu'à la licence. Ensuite, j'ai été rue d'Ulm et je suis agrégé de lettres classiques avant de faire de l'histoire. Et l'agrégation de lettres classiques était merveilleusement préparée à la rue d'Ulm. Donc, je ne suis jamais allé à l'université. En plus de ça, j'ai fait ma thèse à l'école pratique des hautes études. Donc, je suis venu à l'université pour y enseigner. En sortant de l'école normale, j'ai enseigné à Jussieu pendant 3 ans. J'ai appris mon métier avec une historienne que vous connaissez peut-être, qui est Michèle Perrault, qui a été l'historienne avec qui j'ai appris mon métier. Vraiment, une femme absolument merveilleuse. Après, bon, j'ai eu la chance d'avoir la Fondation Thiers et j'ai été recruté ici en 1995 comme maître de conférence. Donc, je suis là depuis 30 ans. C'est-à-dire que je fais partie du mobilier de la maison, comme les photocopieuses et la machine à café. Et je m'achemine maintenant vers la retraite et je n'ai pas une seule heure de cours qui ne m'est pas apporté du bonheur. J'aime profondément mon métier. J'ai enseigné donc 19 ans en première année à Clignancourt et ça j'aimais beaucoup. Je suis dans l'âme un instituteur de la Troisième République, donc j'aime beaucoup guider les étudiants. Et puis j'enseigne de façon continue donc depuis 30 ans en licence 3 où je garde un cours sur la guerre de 14 et sa mémoire. Et j'aime beaucoup le master. Je le fais avec beaucoup de plaisir parce qu'on a les étudiants pendant 2 ans. Donc je les accompagne beaucoup. Et là, maintenant, j'ai 17 ans de promotion. Donc j'ai des étudiants qui sont vraiment devenus des amis et qui sont partout. J'ai des amis dans tous les secteurs d'activité. C'est un vrai bonheur.
Merci pour ce témoignage et pour ce que vous apportez donc, à notre faculté. Monsieur Mention-Rigaud, justement, en parlant de l'esprit de la Sorbonne et de ce qui dure dans le temps, notre radio aussi commence à avoir sa petite histoire. Nous fêtons nos 11 ans le 23 février prochain. Et comme on ne veut surtout pas faire d'entre-soi, on invite tous nos auditeurs à venir fêter ça avec nous. Alors on vous attend nombreux.
Permettez-moi de vous féliciter pour votre professionnalisme qui est impressionnant.
Je vous remercie, c'est gentil.
Merci à vous deux pour cette interview. Parlons maintenant de ceux qui font bouger les choses et sont clairement nos élites entre bon plan et bonne bouffe, tout de suite avec la chronique des brouilles.
C'est sans doute l'une des informations les plus capitales de ces dernières années.
Il est 20h, Moustique arrive à son bureau et là, c'est le drame.
Être étudiant, c'est jongler entre le stress des notes et celui de son compte bancaire, mais être fauché ne veut pas forcément dire mal manger. C'est pourquoi depuis 2014, l'épicerie solidaire étudiante Épisole, située à deux pas du Panthéon, aide les étudiants en précarité à boucler leur fin de mois. Aujourd'hui, Lavinia, dans le reportage, nous emmène la découvrir.
Cette épicerie solidaire se situe dans le 5e arrondissement. Et ce samedi matin, les étudiants se pressent pour faire leurs courses du week-end. Un étudiant de passage est justement à la recherche de ses ingrédients. Ce week-end, il prévoit de préparer une soupe avec ses amis.
Mes amis et moi, on a prévu de cuisiner une soupe principalement d'oignons et de citron. Ça va être plutôt une soupe végétarienne, on va pas mettre de viande dedans. J'ai besoin d'acheter plein de légumes, on m'a donné une liste. D'abord, j'ai besoin d'acheter des carottes. Non, j'ai besoin de riz. C'est un riz un peu particulier, c'est du riz qui est rond. Celui qu'on trouve généralement pour le riz. Je pense qu'il n'y en a pas, je vais juste prendre du riz long à la place du riz rond, je pense que ça pourra la faire. Maintenant j'ai besoin d'acheter du citron, je trouve plus ou moins tout ce qui est essentiel. Moi j'achète souvent tout ce qui est le riz, les pâtes, les lentilles, tout ça je trouve à Épisole. Sur le site c'est indiqué qu'il y a quand même, je crois il y a un facteur 5, donc 24€ ici ça représente à peu près 120€ sur le prix du marché, ce qui est vraiment bien. On me donne ici 24€ par mois, je trouve que ça me convient pour mes courses, mais parfois il faut que j'achète quand même des choses en plus que je trouve pas forcément ici. Surtout tout ce qui est produits d'hygiène ou bien des choses supplémentaires comme moi par exemple. J'aime bien manger des biscuits quand je bois le thé après les cours. Et ça, je ne trouve pas toujours ici.
Après son passage en caisse, il repart avec deux sacs remplis. Il aura dépensé au total 3€. Une autre étudiante vient ici régulièrement. Il y a 2 ans, elle a découvert l'existence d'Épisole grâce à l'assistante sociale de son université.
Moi, ça va faire 2 ans cette année. Où il y a 50% des trucs dont j'aurais besoin chez moi que je peux trouver ici.
Par rapport aux tampons et aux serviettes hygiéniques, elle m'apprend que tous ces articles sont offerts.
Oui, c'est offert. Du coup, ça, c'est une très bonne chose, vraiment. Bon, en général, il n'y a pas spécifiquement ce dont moi j'ai besoin, mais je pense que c'est une très bonne chose pour celle à qui ça convient. Une très bonne initiative.
Je suis également allée à la rencontre d'une jeune bénévole qui travaille ici régulièrement. Elle m'explique plus en détail le fonctionnement des collectes d'Épisole.
Alors, je m'occupe d'aider les étudiants à se nourrir, à acheter différents produits pour la vie de tous les jours. Et je suis là depuis 2 ans. Alors, on a 2 collectes par an déjà, où on va dans les supermarchés du quartier et on demande aux gens s'ils veulent bien donner des denrées alimentaires et des produits d'hygiène. Et ensuite, on a des donateurs. C'est soit des particuliers, bon, ça ne nous arrive pas très souvent, mais ça peut arriver, soit par exemple la mairie de Paris ou des choses comme ça. Et on va aussi, du coup, acheter dans des endroits des produits très peu chers qui sont revendus. Moi, c'est quelque chose que j'adore faire parce que vraiment, ce qui compte ici, c'est la relation humaine et comment on aide les gens. Et voilà, si vous êtes dans le besoin et si vous pensez que ça pourrait vous aider, n'hésitez pas à venir voir.
8,66. Tu prends 50. Ça risque de craquer.
Oui, c'est ce que je suis.
Prends-en un autre.
Ah oui, mais genre doublé.
Ouais. C'est 8,66.
Ajoutons aussi qu'il y a 3 conditions à remplir pour devenir bénéficiaire au sein de cette épicerie. Premièrement, il faut être âgé de moins de 35 ans conformément aux règles du CROUS. Deuxièmement, il faut avoir un reste à vivre journalier inférieur à 7€. Et enfin, il faut habiter ou bien dans le 5e, le 6e, le 13e ou le 14e arrondissement. Si vous remplissez ces conditions et que l'épicerie Épisole vous tente bien, n'hésitez pas à aller voir sur leur site internet où vous pouvez vous inscrire directement.
Merci pour ce très bon plan, Lavinia, qui va nous permettre de nous remplir le ventre correctement. Mais maintenant, je vous propose de rassasier vos oreilles avec le nouveau son de notre boss lady nationale, Théodora, avec Demito.
Je m'appelle Natalia, je
me dit je t'aime, il me parle de famille. Qui me dit de la marijuana. Si tu veux du stress avec lui, viens voir où il y en a. Mais on m'appelle Madame Caillou, cœur rebelle et sans cahier. Ça compte pas peine.
Sur Radio Campus et 20h39 sur Radio Sorbonne. Vous êtes sur Cours d'honneur, toujours. Vous venez d'écouter Des mythos de Théodora. Nous, à Cours d'honneur, par contre, on a la chance de ne pas avoir de mythos. La preuve, tout de suite, avec la chronique des brouilles de Thomas.
C'est une fabrication artisanale. C'est fait à la main, c'est roulé à la main sous les aisselles.
Allez, la vedette, top table!
Merci d'avoir attendu cette chronique. Nous savons à quel point il est devenu difficile d'attendre. Le monde est devenu de plus en plus impatient. Notre temps est de plus en plus fragmenté. Et dans une étude pour la banque ING en 2019, 82% des interrogés estimaient de moins en moins patients par rapport à ce qu'ils étaient auparavant. Pourtant, il y a beaucoup de sagesse dans l'attente. C'est le bon plan de la semaine dans la débrouille avec Thomas.
Que ce soit dans les transports, en faisant une file d'attente ou même aux toilettes, devoir attendre nous paraît parfois insupportable. Mais le problème, c'est sans doute qu'on appréhende l'impatience comme une émotion négative, alors que si on l'aborde plutôt comme un trait de caractère, eh bien c'est plus simple de le réguler grâce à plusieurs leviers. Tout d'abord, je vous propose de cesser de privilégier les caisses en libre service. Oui, attendre au monop peut parfois nous permettre de faire un peu le vide. Et c'est bien de ne penser à rien en faisant la queue. Même si vous n'y arrivez pas parfois, ne pensez à rien, concentrez-vous à ce moment-là sur votre respiration. Pensez à l'air que vous inspirez, que vous expirez quand vous attendez. Je vous jure que parfois, avoir des pensées qui volaient un petit peu dans votre esprit vous permettra de faire un vide salvateur. Ensuite, mettez votre smartphone en noir et blanc. Moi, j'ai abandonné, il y a quelques années, tout espoir de laisser tomber ce qui est devenu, il faut le dire, le doudou des adultes. Oui, mais une fois passé en noir et blanc, eh bien, toutes ces couleurs chatoyantes des applications ou des vidéos cesseront d'aspirer notre cerveau reptilien encore captif par ces couleurs. Et en passant donc moins de temps sur un écran noir et blanc car moins intéressante, eh bien on pourra penser à des choses futiles qui sont pourtant parfois essentielles. Enfin, acceptez que vous n'avez pas toujours le contrôle sur tout en se concentrant sur des pensées positives que l'on éprouve vis-à-vis d'autrui, que ce soit en pensant à des proches ou à des inconnus, eh bien cette compassion va créer un large calme intérieur. Retenez ces mots. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter quelque chose que je ne peux pas changer, le courage de changer celle que je peux changer et la sagesse de distinguer les premières des secondes, puisqu'après tout, devenir adulte, c'est avant tout apprendre à gérer sa frustration.
Merci Thomas pour cette chronique des brouilles. Et vous avez vu, on disait vrai en disant que Thomas n'était pas un mytho, il a toujours des bons plans. Et en parlant de mytho, toujours, on retourne dans une époque où il ne devait pas l'être pour ne pas finir au bûcher. C'est l'heure de la chronique pavée.
Shut up.
Ce qui est inconnu ou mal connu excite l'imagination.
Il brûle parce qu'il y a des tas de journalistes qui peuvent venir et qui ne sont pas venus.
Ah bon, quand ils disent qu'ils viennent, ils viennent pas.
Aujourd'hui, Cours d'honneur vous téléporte dans le passé. On retourne à une époque où les études, c'était un autre délire. Pas de PDF, pas de DM sur Moodle, pas de « je t'envoie le lien sur Drive ». En plein chaos médiéval, une idée va débarquer et retourner complètement la game de la fac. L'arrivée de la toute première imprimante de la Sorbonne. Alors si vous êtes plutôt Epson ou DeLorean, attachez votre hashtag tote bag, on remonte les siècles.
Je ne vous emmène pas avec Marty. Je ne vous emmène pas avec Marty au 5 novembre 1955, mais bien avant, en 1469, à une époque où pour étudier, fallait aussi aller à la salle, parce que les livres étaient lourds, coûteux, un peu comme ton ex. Un seul manuscrit, copié à la main par des moines, pouvait valoir le prix d'une petite maison. Quelques inventeurs du moment s'étaient déjà attelés à trouver des techniques d'automatisation de l'écriture, mais tous ont fait le même constat.
Ça marche pas, la vos mères, les reines des.
Autant dire qu'on n'aurait pas été à la BU pour un café vanille ou un jungle speed. Et c'est justement dans ce monde-là que va arriver une révolution qui va changer la manière d'apprendre, de transmettre, de penser. Et cette révolution commence à la Sorbonne. Vers 1450, un certain Gutenberg invente l'imprimerie à caractère mobile. Une machine capable de produire des livres en série, de manière fiable, rapide et surtout bien moins chère.
Technologie.
L'Europe en est bouleversée. Tout le monde la regarde, tout le monde en parle. Et en France, un homme comprend très vite le potentiel de cette machine, Louis XI. Le roi voit dans l'imprimerie un outil de puissance. Alors il décide d'en installer une dans le royaume, et pas n'importe où s'il vous plaît. Il installe la première au cœur du monde intellectuel français, la Sorbonne, qui déjà à l'époque est l'un des centres majeurs de l'enseignement en Europe. À l'automne 1469, invité par le recteur Jean Henlin, trois imprimeurs allemands arrivent à Paris. Ils s'appellent Ulrich Gering, Michael Friburger et Martin Kranz, trois noms pas faciles à retenir mais pionniers de leur domaine. Ils installent leur atelier dans le cloître Saint-Benoît, un bâtiment de la Sorbonne juste derrière la chapelle. Et là, ils commencent à imprimer. Leur première œuvre, un recueil de lettres de Cicéron, le grand orateur romain. Un choix logique, car les étudiants de l'époque travaillent surtout la théologie, la philosophie et les textes antiques. L'explosion de joie ? Sûrement pas. Mais l'explosion des livres, oui. Pour la première fois en France, on peut produire des dizaines d'exemplaires identiques en quelques jours. Plus besoin de passer des années à recopier chaque page, les étudiants peuvent emprunter, acheter et partager les mêmes textes. Imaginez, c'est comme si du jour au lendemain, on passait d'une bibliothèque avec 3 livres à Netflix, mais la version à 7,99€ avec les pubs, faut pas déconner non plus. Cette imprimerie ne reste pas longtemps seule. En quelques décennies, d'autres ateliers s'installent à Paris, dont beaucoup dans le quartier latin. Le livre devient un objet accessible et ça change tout. Les professeurs peuvent diffuser leurs cours, les étudiants peuvent lire les mêmes œuvres, les débats intellectuels s'intensifient et de nouvelles idées peuvent circuler beaucoup plus vite. Sans exagérer, l'installation de l'imprimerie à la Sorbonne contribue à créer le monde universitaire moderne. Un monde où le savoir n'est plus réservé qu'à quelques privilégiés, où l'accès à la connaissance devient une possibilité pour beaucoup, où la population peut se renseigner sur les savoirs de l'époque.
Exactement, ouais. T'es bien renseigné, toi.
Alors évidemment, aujourd'hui, quand on imprime à la fac, c'est pas un Cicéron en latin, c'est plutôt un Poli à rendre pour le TD juste après, ou même cette chronique sur l'imprimerie, mais l'esprit est le même. L'imprimerie à la Sorbonne en 1469, c'est la naissance de la vie étudiante telle qu'on la connaît, de la diffusion massive du savoir, du concept même de BU, et plus largement de l'enseignement supérieur ouvert à tous. Et mine de rien, cette première machine posée au cœur de la Sorbonne a lancé un mouvement qui continue encore aujourd'hui, celui de rendre le savoir accessible et transmissible. Alors la prochaine fois que vous entendrez le... d'une imprimante en souffrance juste avant un rendu, imaginez le même bruit, mais en 1469. Trois imprimeurs allemands, une machine en bois et un étudiant en panique. « S'il vous plaît, j'ai besoin d'un Cicéron avant midi, c'est pour un exposé. » 6 siècles plus tard, rien n'a changé. Les machines font des bruits bizarres, les étudiants font encore plus de bruits bizarres. Par contre, le stress des examens, lui, reste parfaitement imprimé.
Merci Elias pour cette histoire. Je vais pas vous cacher que vos animatrices seraient tombées love d'une imprimante à l'époque, parce que faut nous voir en panique avant d'aller pour aller imprimer notre âme, c'est quelque chose. En parlant de tomber love d'ailleurs, il y en a justement qui ne s'en cache pas et reste même dans le thème histoire.
Oh mon Dieu, les gens qui parlent en français, ils ont tellement de charisme. Everybody's gonna love today.
La maison s'éveille, c'est un nouveau jour.
C'est un nouveau monde.
Moi j'ai besoin de poésie dans ma vie, et d'aventure, et d'amour.
On a bien cru que l'amour était mort sur cours d'honneur. Passe pas un seul Sorbonne in Love depuis le début de cette année universitaire, mais on revient en force avec un couple d'historiens qui comptent bien réécrire l'histoire avec la leur.
A-t-on perdu l'amour de vue ? C'est une question pertinente quand je vois le mal que j'ai eu à dénicher un couple à la Sorbonne. C'est par un bouche à oreille de longue haleine que l'on a dégoté nos tourtereaux qui pourtant sont repérables à des kilomètres tant ils puent l'amour comme on dit. Ce sont donc Diane et Virgile qui ouvrent le bal pour ce premier Sorbonne in Love de 2026 avec une histoire qui redonne de l'espoir. Tous deux sont en troisième année de licence d'histoire. Ils se sont rencontrés sur les bancs de la Sorbonne il y a 5 mois. C'est lorsque Diane arrive en dernière année de licence qu'elle se retrouve un peu face à elle-même. Ses amis sont partis en Erasmus tandis qu'elle restait dans la ville de l'amour et elle a bien fait. Forcée de sociabiliser, elle prend son courage à deux mains et tente une approche. Je vous laisse avec leur témoignage.
Il faut savoir qu'avec mes copines, on avait un œil très aiguisé dans les amphithéâtres. Et l'an dernier, en cours de Moyen-Âge, j'avais déjà vu un garçon qui était devant moi en cours. Et les filles m'avaient dit « ce garçon est pour toi » parce qu'il avait un fond d'écran avec des choses de l'armée. Bon, c'était un peu une blague initialement. Et je me suis retrouvée sans mes copines dans un cours de haut Moyen-Âge en septembre cette année, du coup. Et j'ai revu le même garçon qui m'avait un peu tapé dans l'œil quand même l'an dernier.
On était en face à face et je t'ai regardé trois fois. Et toi, tu m'avais bien remarqué, je crois. Et puis après, on avait aussi un autre cours en commun, donc pareil, on s'était regardé en ce cours-là. Donc, toi, tu m'avais bien repéré, du coup. Et en fait, derrière, un truc un peu banal, mais elle m'a envoyé un message sur WhatsApp pour me demander un cours, à la base. Et en fait, tout est parti de là.
Une conversation, on en a amené une autre. Pendant tout un week-end, on s'est parlé, on s'est vu le lundi. Les choses sont devenues un peu plus concrètes. Le soir, il m'a proposé d'aller boire un verre. J'ai bien sûr accepté. On est rentrés tous les deux. Et la semaine d'après, en fait, on ne s'est plus jamais quittés, sachant qu'on vivait presque en fait des gens ensemble dès la semaine d'après. Aujourd'hui, on vit toujours l'un collé à l'autre tout le temps. Et bien l'un avec l'autre et on est heureux comme ça.
Un des trucs qui m'a le plus fait flasher, c'est son regard, genre ses yeux, son regard, je trouve ça limite hypnotisant, vraiment. Non, puis après c'est surtout les conversations qu'on a eues, on s'est rendu compte qu'on avait énormément de points communs, on était d'accord sur plein de trucs, enfin même le fait qu'elle soit réserviste aussi, ça c'est un gros point commun et c'était génial.
Au niveau de la culture, de notre éducation aussi, tout ce qu'on aimait faire dans la vie, notre travail aussi, nos passions, tout était relié.
Dans le cinéma, genre on a tous les deux on adore le cinéma, on a une bonne culture cinématographique, donc rien que pouvoir parler de tout ça à chaque fois, c'est un vrai plaisir. Mais en fait, on avait plein de points communs, donc ça a été vraiment... voilà, ça a accroché direct dès le début, quoi. C'est fait très rapidement, en fait.
Concernant notre relation, on vit un peu à 1000 à l'heure tous les deux. On n'aime jamais être assis à rien faire, et donc même les week-ends qu'on passe ensemble en dehors des cours, on fait toujours des milliards de choses.
Ce qui est vraiment cool, c'est qu'on est tout le temps ensemble. Entre les cours, on se retrouve, on essaie de manger ensemble. Moi, elle a présenté ses amis, je lui ai présenté des amis à moi aussi, donc nos deux cercles sont mélangés. Donc en fait, on est tout le temps ensemble, et ça, c'est cool. Il n'y a pas un moment où on se dit ah, c'est chiant, on est tout le temps l'un sur l'autre. Et moi, c'est la première fois que j'ai une relation comme ça où je suis tout le temps avec la personne. Et en fait, on fait plein de sorties aussi en dehors de la fac. On bosse ensemble pour la fac aussi, ça c'est cool. Moi, ça me motive un peu plus. Grâce à elle, je suis plus studieux.
Quand on a des petits coups de moule, l'un et l'autre, l'autre sait toujours comment redonner un peu de peps à la vie du deuxième. Et je trouve que c'est justement ce qui rythme notre vie, et même dans le train-train du quotidien. Aucun jour se ressemble. Dans la cuisine, dans tout ce qu'on fait tous les deux, tout est à chaque fois un peu plus différent. C'est ce qu'on cherche en fait quand on est jeune, ne pas se mettre dans un rituel. On veut que chaque jour soit différent et c'est ce qu'on a réussi à faire tous les deux.
Je suis hyper reconnaissant parce que depuis que je l'ai rencontré, sur plein de choses, je me suis amélioré. Elle me permet d'avoir plus confiance en moi. Et non, moi je suis hyper, hyper content, elle me rend vraiment heureux et je suis vraiment épanoui. Et c'est vrai que c'est la première fois que je vis un truc comme ça. Elle est hyper aimante avec moi et tout. Elle est incroyable, vraiment.
Je voulais simplement dire à Virgile que peu importe ce qu'on va vivre et tous les voyages qu'on va faire et tout ce qu'on va former tous les deux, je sais qu'on s'est promis beaucoup de choses. Comme chacun des couples, on se promet probablement peut-être même la vie. Mais je sais que moi, je donnerai toujours tout ce qui est possible pour toujours le rendre heureux.
Je suis hyper content, hyper heureux et je suis hyper amoureux aussi.
Je suis prête à tout vivre avec lui pour aujourd'hui ou pour toute la vie.
Cette petite histoire m'aurait presque fait recroire en l'amour et franchement, faut le faire. Après, je vous avoue que je ne pourrais pas me défaire de mon premier véritable amour, The Help, qui nous chante Here I Am de suite sur Cours d'honneur. Here I am, waiting patient, hand in hand. But I'm nervous, dressed as friends, touching lightly. Here I am, and I'm only yours to control.
Il est 18h53 sur Radio Campus et 20h53 sur Radio Sorbonne. Vous êtes sur Cours d'honneur. Vous venez d'écouter Here I Am de The Help sur Cours d'honneur. Bien sûr qu'on adore ces artistes. Il y a quelqu'un d'autre à qui on ne peut pas ne pas s'identifier et adorer. Et c'est de suite dans la chronique Sorbonne en personne.
On prend la direction de la Sorbonne en personne.
Avec Swan dans Sorbonne en personne, on va parler journalisme, mais pas n'importe lequel. Celui de David Castello-Lopez, le gars qui te fait apprendre des trucs sans que tu t'en rendes compte. Un peu comme Wikipédia, mais drôle, rapide, efficace. Et j'ai dit drôle ?
Un journaliste, un enquêteur extrêmement pointu, monsieur David Castello-Lopez.
David Castello-Lopez.
David Castello-Lopez.
David Castello-Lopez.
Effectivement, drôle, tu l'as dit, Ellie, deux fois. Tu l'as dit, David Castello-Lopez, déjà, le nom, on dirait le résultat d'un contrôle fiscal européen. Castello-Lopez, trois syllabes, deux pays, zéro certitude. Une certitude pourtant qu'il est un enfant des années 80 et parisien de rive droite. Quelques fun facts sur son enfance, il est ami depuis le lycée avec Clément Beaune, le ministre des Transports. Il a chanté dans un groupe Marquis Concept dont Internet n'a pas pu retenir aucune information, si ce n'est qu'il écrivait des paroles humoristiques.
Et mon premier concert avec Marquis Concept, je me souviens très bien, 21 juin 2000, il y avait des amis de lycée qui avaient un plan pour jouer devant le lycée des Frambourgeois. Quoi, ils nous avaient dit, bon, vous pourrez chanter quelques chansons si vous voulez. La première fois où je suis sur scène et les gens, ils dansent, ils sont contents de t'écouter, je fais, oh, c'est trop bien ça. Le groupe qui s'était fait chier à avoir le spot nous a dit, bah écoutez, maintenant les mecs, vous arrêtez, on va reprendre notre place. Quoi. Je leur ai dit, parce que ça me faisait chier, j'avais envie de continuer, j'étais en train de kiffer. Et j'ai dit au micro, et maintenant le retour du groupe ennuyeux.
En dehors de cela, peu d'informations sur son enfance, sinon cette vérité universelle. À 3 ans, on ne mange pas droit, on ne parle pas bien, on est globalement nul et on se la pète.
Les enfants souvent se la pètent. C'est-à-dire
c'est
que
une take que j'adore déjà.
Et moi, je suis allé nager.
C'est vrai.
Tout, n'importe quoi, ils ont fait des trucs, j'ai fait caca. Ils sont trop fiers de tout.
Concernant ses études, c'est évidemment à la Sorbonne que ça se passe. Il termine son master d'histoire en 2006, tout en étant l'assistant du critique d'art Hector Obalk de 2005 à 2010. Bon, on n'a clairement pas eu le même job étudiant, et en partant en échange à Berkeley, une université de Californie, on n'a clairement pas eu le même Erasmus. Tout comme nous, avant de rentrer en école de journalisme, il en accumule déjà les compétences grâce au Flash Info chez Radio TSF Jazz et même chez Radio Nova. Bon, ça n'a évidemment pas la même classe que Radio Sorbonne, mais ça l'aide quand même à entrer à l'IFP, l'Institut Français de la Presse, ainsi que l'école de journalisme de Berkeley, parce que du coup, bah oui, il est en Californie.
Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas, les affaires marchent en ce moment.
Ouais, et du coup ?
Du coup, une fois diplômé, il change de taf tous les deux ans et enchaîne l'émission Effet Papillon sur Canal+, puis le Chiffroscope avec l'illustrateur Leonard Cohen, puis chez Gorafi, puis on arrive à l'année du buzz, son buzz, oui.
Du coup, j'achète des trucs, et les gens voient que j'ai des trucs, ils disent putain, il a des trucs, moi aussi je voudrais des trucs, et du coup, je suis content.
Et nous aussi, on est contents puisqu'il diffuse sa chronique Depuis quand, pour laquelle il retourne chez Canal+.
Depuis quand ça existe, les choses de la vie,
nous ne savons pas.
Et bah moi si.
Ce sera diffusé dans Le Petit Journal, puis La Case en Plus, puis Les Reporters du Dimanche. Cette émission a un concept simple, mais dont on avait tant besoin. Il explique les choses de la vie, ces objets du quotidien qui passent devant nos yeux sans qu'on les remarque, tels que les post-it, les kiosques à journaux ou encore le surimi. Bon, ok, ça fait beaucoup de questionnements différents, mais la question c'est, depuis quand ça existe, depuis quand, n'est-ce pas? Eh bien, 10 ans maintenant, et on espère qu'il nous offrira une autre émission avec la même intro. Bon, l'excuse puisqu'il a rejoint Stéphane Bern de 2020 à 23 pour une chronique différente avec la même thématique, nommée Les Origines, qui passe durant Historiquement Vôtre.
Europe 1, Historiquement Vôtre, avec Stéphane Bern.
Les Origines.
Pour clore cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoine et Philippe Charlier, mais surtout maintenant avec vous, David Castello-Lopez.
En 2019, il est intéressant, enfin il est dans intéressant, enfin il est dans la chronique, intéressant pour 28 minutes sur Arte, l'émission 28 minutes, il parle pas pendant 28 minutes.
Quand votre grille-pain devient vieux, vous le mettez à la poubelle. Quand votre voiture devient vieille, vous l'abandonnez à la casse. Quand un ami vous ennuie, vous lui ghostez sa face. Mais les vieux avions alors, hein?
L'année suivante, il traverse la frontière et débarque en Suisse pour présenter Suisse, point d'interrogation, sur la RTS, une rubrique qui met en valeur les atouts du pays, tout en rappelant que oui, les clichés suisses sont aussi solides que leur chocolat.
Je suis suisse,
mais quelle heure est-il ?
Moi je sais.
Suisse, c'est propre ici, non ?
Bah oui.
Suisse,
et l'ordre des nazis ?
S'il te plaît. Suisse. Je suis suisse,
et je suis poli.
C'est bien. Je suis suisse,
et j'ai les moyens.
Youpi. Je suis suisse,
mais suis-je sexy ?
Oui, mais
mais surtout gentil.
Oh non.
Suisse.
On aura enfin droit à un spectacle One Man Show en 2023 après 15 ans de journalisme hilarant. Il y mêle de nombreuses refs à ses précédentes émissions, par envie de pub ou de fierté. Bon, t'inquiète David, on te haïe pas pour ça.
À quelle vitesse est-ce qu'on commence à haïr les gens quand ils disent du bien d'eux-mêmes? Les gens super, on adore qu'ils mentent de toutes leurs forces et qu'ils disent des trucs du genre oh non, tu sais, moi je suis pas super, non. Non, non. Je suis une merde comme toi.
En ce moment, on le connaît surtout pour la série Small Talk qui existe depuis 2022, dans laquelle il interroge des gens relativement drôles sous forme non pas d'interview mais de conversation. On le reconnaît bien, des questions sordides, simples et terriblement intéressantes.
Qu'est-ce que les parents de tes amis disaient de toi? Est-ce que, à mesure que t'es devenu plus de gauche, t'as pris du poids?
Est-ce que tu te souviens du jour où t'as reçu ton premier gros cachet? Est-ce qu'on t'a raconté quelque chose sur ta conception? Qu'est-ce que faisaient tes parents? Tu as choisi la calvitie. Ton visage te saoule?
Un homme qui n'explique pas pourquoi c'est drôle, il explique pourquoi c'est réel, et après, en général, on rit.
Je possède des thunes, ouais. Je suis...
Mais moi, j'en ai rien à foutre. Moi, je veux rigoler, alors je paye.
Les affaires marchent en ce moment.
Ouais, et du coup, j'achète des trucs.
Être un vrai genre, quand on est pété de thunes, est-ce que ça suffit si je vote à gauche?
Non, Clotaire.
Il se dit, putain, il a des trucs. Et moi aussi, je voudrais des trucs.
Merci, j'ai plus de trucs à dire.
Merci Swan pour cette chronique aussi drôle et instructive que celui dont tu parles. D'ailleurs, j'adorerais pouvoir le croiser dans la rue et qu'il m'apprenne des trucs plus surprenants les uns que les autres. Je comprends pas comment ça n'est jamais pu arriver. Même devant la Sorbonne, la rue est contre moi ou quoi?
Doucement, ouais. Tu vas finir par faire une syncope si tu continues. En plus, figure-toi que Clara nous parle d'une certaine rue qu'on connaît bien, alors t'as intérêt à être gentil avec elle.
À chaque fois qu'il revient, il m'apporte quelque chose. Il m'écrit.
Ah oui, les cartes postales.
On y passe et repasse, parfois plusieurs heures par jour, dont d'un pas pressé ou en flânant, on s'y pose en terrasse, on y milite en masse la rue. Et celle de la Sorbonne, comment est-elle? Quelle est son histoire? À la rencontre de ses habitués, Clara est allée pour que dans le quartier latin, nous soyons plongés.
Donc là, on est au début de la rue de la Sorbonne. Donc on est dans l'angle, juste à côté du square Samuel Paty. Voilà, il y a une petite pharmacie.
Il y a des pansements et des petites pastilles à la menthe si on sent pas bon de la bouche. Juste à côté, on trouve une petite station Vélib avec plein de vélos verts et de vélos bleus qui est totalement rempli. Donc là, on remonte la rue de la Sorbonne. Sur votre droite se trouvent
les magasins édition classique Garnier, là, les livres jaunes.
Alors, je ne suis jamais rentrée avant. Moi non plus, je n'y ai jamais rentrée. Ça sent très bon et c'est très jaune.
Bah là, il y a un petit café qui s'appelle The Coffee. Très bobo, très cher, très 5e arrondissement.
Maintenant, on passe devant le magasin de la Sorbonne et des universités de Paris. Mais oui. C'est fermé, malheureusement. Ah, nous ne pourrons pas acheter de suite Sorbonne, université.
Ah, là, c'est un petit resto italien qui s'appelle Chez l'Italien. J'y suis allée plusieurs fois me prendre une petite part de pizza. C'est plutôt délicieux.
Ici, il y a le petit coin où on réchauffe les pizzas, les pâtes, les lasagnes. Et on a fait les cartes étudiantes. Vous avez 10% à midi.
Merci. Et maintenant, nous allons entrer dans le Crous Champollion. On arrive un peu tard, donc tous les rayons sont vides. Il ne reste que des bouteilles d'eau et des sandwichs qui ne font pas partie du menu à 1€, donc c'est bien triste. Et il n'y a plus de cookies. Mais il reste des muffins. Maintenant, nous pouvons voir l'entrée de la Sorbonne, avec qui est gravé Sorbonne. Et les messieurs en costume bleu et leur petit chapeau bleu.
Là, on arrive au niveau de la place de la Sorbonne, donc juste à côté de la chapelle. Et il y a un petit panneau Histoire de Paris qui nous raconte qu'avant la rue, c'était la rue Coupe-Gueule. Et juste au-dessus, il y a une grande porte et gravé au-dessus, il y a écrit École Nationale des Chartes. Et c'est fermé, ouais. On peut pas rentrer.
Et nous arrivons à la fin de la rue de la Sorbonne parce que ensuite ça devient rue Victor Cousin. C'était un philosophe et un homme politique. On ne sait pas pourquoi ça passe d'une rue à l'autre. Alors que c'est dans le prolongement, avec plein d'affiches du point levé. Votez pour eux.
1€, le repas du Crous.
Merci Clara, et sur ce, c'est la fin du 11e épisode de la saison.
Cours d'honneur, épisode 11, saison 5, c'est terminé, merci de l'avoir suivi.
Merci surtout à notre invité, Eric Mention-Rigaud, interviewé par Jade.
Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Radio Sorbonne Université existe sur Instagram, sur les plateformes de podcast et dans ta fac aussi.
Et merci surtout à toute l'équipe.
Merci Romain.
Merci à vous, j'ai passé une excellente soirée et joyeux Saint-Valentin finalement.
Oh là là. Et merci nous de même, merci à Jade aussi.
Merci à vous et puis on se retrouve pour les 11 ans aussi bientôt.
Surtout.
Ça arrive, merci à Lavinia.
Merci Yeshi, c'était vraiment super.
Et merci aussi à Elias.
Ben merci beaucoup, une super émission comme d'habitude. Merci à vous toutes, merci aux auditeurs. J'aime RSU au final.
Quel loser. Merci pour votre invitation. J'ai été très heureux d'être avec vous ce soir.
C'est un plaisir. Et on dit merci aussi à Mathilde qui a ramené le Sorbonne in Love quand même.
Ben merci à vous, c'est grâce à vous. Et j'ai très très hâte de vous retrouver.
Bonsoir aussi à Clara.
Et ben écoutez, merci à tous et à toutes. J'espère que vous avez votre petit commerce préféré. Moi je pense que c'est l'italien.
T'as bien raison. Et merci à Thomas qui n'était pas si muet cette fois-ci.
Et oui, j'étais bien là ce soir et je suis ravi d'avoir eu un petit peu de love à quelques jours de la Saint-Valentin.
On remercie évidemment Radio Campus Paris pour le soutien inconditionnel et pour le partenariat.
D'ici là, essayez de ne pas trop d'euros s'en procréer au risque de réveiller la colère du gouvernement.
Ou pire, de faire les gros mythos puisque vous pourriez vous retrouver dans une chanson de Théodora. Mais bon, ça se négocie en vrai.
Que de bonnes choses pour la fin du mois, dont notre anniversaire le 23 février. Soyez nombreux.
Mais surtout,
soyez vous-même.
Soyez fous même.
Restez curieux.
Restez avec nous.
On vous aime. Bisous. Ciao.
J'ai pas réussi à rendre tous les DM.
Moi, je suis vite distraite.
T'as rien oublié. Effaceur, Tipex, ton goûter, t'as ton goûter.
C'est-à-dire que le plus beau cadeau qui nous a été fait depuis qu'on est petit, c'est...
La cour d'honneur.
J'ai aussi écrit un courrier au président de la République parce qu'on sait jamais. Hein.
Ça va tout changer parce qu'en plus, j'habite à Paris.
J'attends, est-ce qu'il y aura un autre confinement et est-ce que je vais pouvoir travailler.
90% du temps était voilà, dans sa chambre, sur son lit ou...
J'ai foulé le sol de la cour d'honneur pour la première fois. J'ai pas été impressionnée.
S'il tressaille, on frissonne.